Salut, c'est Tristan.
Salut, c'est Sarah.
Salut, c'est Alexis.
On représente le collectif Frugarilla d'Octotechnologie.
Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés.
Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème.
Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexis du média Frugarilla, accompagné de Sarah, qui nous prépare une conclusion à chaud en fin d'épisode. Salut Sarah.
Salut.
Aujourd'hui, nous recevons Laurent Morisseau et Claude Aubry pour un épisode sur l'agilité.
Salut à vous.
Alors l'agilité, yes, l'agilité. En tout cas, quand on parle de numérique, très vite, pour ceux qui font du numérique, c'est dans le coin, quoi. C'est pas très loin. Ça parle de PO, de Scrum, de trucs, de bidules, en tout cas de daily et de machin. L'agilité est jamais très très loin quand on parle de numérique. Et notre enquête sur les numériques essentiels, depuis un an, nous amène à nous questionner sur des pratiques essentielles d'agilité. Avec la conviction que les numériques essentiels ne pourront advenir que par et pour les personnes qui les développent, qui les maintiennent, qui les conçoivent, qui les utilisent, et notamment toute personne qui pratique l'agilité, quelle que soit la méthode, la chapelle ou la pratique. Salut Claude.
Bonjour.
Alors Claude, tu es une référence reconnue de l'agilité en France. Tu as publié 6 éditions du très fameux livre Scrum de 2009 à 2022 et aussi L'art de devenir une équipe agile en 2019, illustré par Étienne Appert. Tu participes aux différentes conférences agiles en France, y compris après avoir annoncé ta dernière participation. Donc tu as annoncé ta dernière participation et puis tu es revenu. Tu as finalement remis le couvert à Agile Grenoble en 2023 avec une keynote Agilité de la décroissance. Titre choc. Tu présentes l'agilité comme une philosophie du travail avec 4 fondamentaux, l'auto-organisation plutôt que la division du travail, les boucles de feedback plutôt que la division du temps, la robustesse de l'équipe au lieu de la performance individuelle, choisir la sobriété au lieu de subir la flexibilité. Et c'est ton partage sur l'agilité de la décroissance sur ton blog où tu as retranscrit cette fameuse keynote qui nous a donné envie d'organiser cet épisode. Tu veux ajouter quelque chose, Claude? Peut-être aussi sur l'agilité radicale que j'ai pas mentionnée, auquel tu contribues ou tu as participé
Oui, l'agilité radicale, elle date du premier confinement 2020. Nous étions quelques-uns à organiser des clubs de lecture, un club de lecture en fait, qui okay. À l'origine vient d'Agile Toulouse. Pour le confinement, nous avons fait des clubs de lecture à distance, hein, puisque... Évidemment,
confinement
nous
oblige.
Tous confinés et nous sommes tombés sur une lecture de Bruno Latour, donc un philosophe qui m'a quitté l'année dernière.
Où atterrir ?
Bruno Latour qui a fait un article pour évoquer la sortie du confinement et dire vous avez mis des gestes barrières, il faudra les garder après et puis ne pas revenir comme avant. Et c'est grâce à Bruno Latour que nous avons eu une idée de faire une présentation à une conférence en ligne qui s'appelait Agile en ligne, qui a été organisée qu'une fois, à ma connaissance, Agile en ligne en 2020, puisque des conférences agiles ne pouvaient pas avoir lieu. Et donc, nous avons présenté une rétrospective particulière, le rétro-confinement, en fait. C'est-à-dire, on essayait de voir comment on pouvait sortir du confinement en changeant, puisqu'on avait réussi avec le confinement à changer complètement de façon de travailler, enfin, assez radicalement. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion d'essayer de changer aussi, de garder en sortie du confinement notre façon de travailler.
Et ok, et c'est
ça
l'acte
a pas
de naissance.
Vraiment, mais c'est à partir de là qu'est venue l'agilité radicale.
Ok, c'était l'acte de naissance, l'acte fondateur de l'agilité radicale. Et donc, si vous voulez en savoir plus, cherchez sur votre moteur de recherche préféré, vous en trouverez plus. Merci Claude. Salut Laurent.
Salut.
Tu es un spécialiste de l'agilité, un pionnier de Kanban en France, et tu accompagnes les organisations, notamment dans la gestion agile de leurs objectifs d'entreprise, avec les OKR. Alors OKR, c'est pour objectif qui résulte, objectif et résultat clé. Tu as publié les livres, t'en as publié 3, Kanban pour l'IT en 2014, Kanban l'approche en flux pour l'entreprise agile en 2019, on voit le fil, Kanban, et la boîte à outils des OKR en 2023. Tu participes et organises des conférences en France sur l'agilité, et notamment nous nous étions croisés pour lancer Lean Kanban France en 2012, conférence qui continue et qui a changé de nom pour devenir Flowcon. Petit clin d'œil aux amis de Flowcon, Flowcon d'ailleurs, je sais même pas, bon bref. En préparant cet épisode, tu nous disais que ton focus, c'est la question de l'entreprise, du système dans son ensemble, avec le souhait de décrire une entreprise agile. Je mets des guillemets entre entreprise agile. Je remarque ta constance sur ce sujet parce que c'était déjà un de nos sujets de conversation en 2012. Donc, un vrai fil rouge là que tu tires depuis quelques années. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, sur ce fil rouge. Alors déjà, en fait, le deuxième livre, je l'avais écrit avec Pablo Pernaud. Donc, j'étais pas tout seul.
Exact. Pablo, qu'on connaît.
Voilà, évidemment, que vous connaissez bien. Avant Lean Kanban France, donc j'avais créé Agile Tour Rennes, qui continue d'exister, donc après 15 ans d'existence. Et aujourd'hui, j'anime un meet-up sur l'entreprise agile, pour dire que c'est un fil conducteur chez moi.
Okay.
Donc ça, c'est depuis novembre. Et oui, en tant que coach agile, donc ça fait depuis 2008 que je suis coach agile, et en fait, j'ai eu l'occasion d'intervenir de la start-up au grand compte, mais surtout dans les PME et ETI.
Okay.
Et en fait, c'est là où on a accès beaucoup plus facilement que dans les grands comptes, évidemment, aux dirigeants, aux top managers. Et donc, la question, à un moment donné, de transformer toute l'entreprise et pas seulement les équipes IT s'est posée. Et donc, la première réponse, c'était avec le Kanban de travailler sur toute la chaîne de valeur bout en bout. Et ça, c'était bien, mais c'était limité. Et donc, les OKR sont venus renforcer cette problématique que j'avais, parce que j'avais pas la réponse à toute l'entreprise. Donc, les OKR, c'était pour aligner, on va dire, verticalement après l'alignement horizontal. C'est une vraie porte ouverte sur la direction, hein, les OKR, et puis un vrai engrenage entre la stratégie et les équipes opérationnelles. Pour autant, il manque pour moi une réponse cohérente à tout cet ensemble-là, et donc c'est ce que j'essaye de trouver. Il y a des réponses, mais pour moi, elles sont pas suffisantes ou complètes. C'est un sujet de fond, voilà.
Ok, voilà. Elles sont pas organisées, elles sont pas agencées, etc. Ok, merci, parce que effectivement, on en profite aussi pour saluer Pablo, si jamais tu nous écoutes. On te lit encore, et d'ailleurs, tu as sorti un article hier qui parle un petit peu du sujet dont on va parler aujourd'hui.
Voilà, j'ajoute que Pablo a écrit la préface de Scrum édition 5 et Scrum édition 6.
Ah, mais Pablo est partout, donc. En préparant cet épisode, en échangeant avec vous, en écoutant ta keynote, Claude, il y a aussi la conférence d'Alice Barallon qu'on mentionne sur résilience et agilité à Agile Tour Bordeaux en 2023. Il m'est venu cette sensation de la mort de l'agilité. L'agile est mort, vive l'agile. C'est un petit peu aussi le propos de Pablo que j'ai lu hier. Laurent, tu nous partageais ton envie aussi de redonner, pendant la préparation, de redonner les lettres de noblesse ou sa noblesse à l'agilité. Je crois que c'était à peu près tes mots.
Oui.
Et Claude, par l'agilité radicale, je sens un mouvement un peu similaire aussi. Et je compte plus d'ailleurs les conférences qui proposent à grands coups de nouveaux manifestes, de manifestes de l'agilité radicale ou de nouveaux manifestes de la nouvelle génération ou quelque chose comme ça, de vouloir continuer cette file-là de réinventer l'agilité, de la revisiter, etc. Chemin que j'ai moi-même vécu, mon choix a été, pour ma part, d'abandonner l'agilité aux pires effets de son succès. Et c'est comme si nous vivions, en fait, depuis au moins une dizaine d'années déjà, ce que je nomme aujourd'hui le grand trouble de l'agilité. L'agilité qui sait plus très bien où elle habite, qui sait plus très bien ce que c'est, on n'arrête pas d'entendre la vraie agilité, les dettes de noblesse, c'est comme s'il y avait un grand trouble là. Certaines personnes s'en éloignent, d'autres la fustigent, d'autres encore veulent lui redonner sa noblesse. Et quand il y a trouble, on fait comme on peut, quoi. Et chacun trouve ses solutions et ses accroches. Et du coup, j'ai envie de vous tendre la perche et qu'on commence par ça. Vous, Laurent et Claude, comment vous vivez ce grand trouble de l'agilité? Quels sont vos positionnements dans ce grand trouble de l'agilité? Comment vous y accrochez? Qui veut commencer?
Je vais commencer. J'ai fait le même constat que beaucoup. Il y a le faux agile et puis après l'agilité est morte. On a vu beaucoup de keynotes là-dessus, que ce soit en France ou à l'international d'ailleurs. C'est assez étendu. Personnellement, je me suis jamais posé cette question. Vu qu'effectivement, pour moi, l'agilité a pour vocation, je sais bien que c'est pas né comme ça, mais la tendance, l'évolution de l'agilité, tout nous emmène vers avoir une réponse au niveau de l'entreprise pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise touche les bénéfices effectivement de ce qu'on met en place au niveau des équipes. Et ça, c'est pas forcément la réalité. Et pour moi, l'agilité opérationnelle, c'est-à-dire au niveau des équipes méthodologiques and co, là, on a quand même globalement fait le tour, même s'il y a, encore une fois, on peut continuer d'enrichir tout ce corpus-là. Mais la réponse au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire typiquement l'agilité stratégique, l'agilité organisationnelle, ce genre de choses, on n'a pas de réelle réponse. Et donc l'agilité, elle est juste pas morte. On a fait le tour de l'agilité opérationnelle, mais la suite est devant nous. Et il y a encore beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à faire, à maîtriser. Et donc, pour moi, le champ est immense.
Le champ, ouais, ok. Ouais, et en fait, quand tu parles de redonner sa noblesse à l'agilité, ou je sais pas exactement ouais. redonner que tu avais dit, mais quelque chose comme ça, en fait, tu dis ça, quoi. Tu dis, ouais. tirer cette dimension-là de l'agilité vers le système dans son ensemble, vers l'entreprise, quoi.
Exactement. Pour moi, on okay. est au milieu du guet de la transformation. On touche pas encore tous les bénéfices. Et il okay. faut traverser le pont. Pour moi, ça veut dire que l'entreprise touche les bénéfices au même titre que les autres, c'est-à-dire que l'entreprise touche les bénéfices de l'agilité tout en conservant l'apport qu'on a eu au niveau des équipes en termes de bien travailler ensemble, d'être agile, d'avoir les bonnes valeurs, les bons principes et les bons comportements.
Ok, super. Ouais, et donc il restera, et ce sera peut-être probablement la suite de notre discussion, à confronter ces bénéfices pour l'entreprise de l'agilité aux limites planétaires ou à ce qui se passe au-delà de l'entreprise qui elle-même va subir des contraintes, mais ça on continuera la discussion sur ce sujet-là après. Claude, toi, pour toi, ouais, ce grand trouble de l'agilité, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu le vis? Quelles sont tes réponses dans tout ça?
Alors, puisqu'on parle de trouble, le premier trouble dont je me souviens, il remonte assez loin, c'est le trouble de la certification Scrum, en fait. Mmh. Alors, moi, je suis rentré avec enthousiasme dans l'agilité, enfin, même si je venais du monde du génie logiciel, et pour moi, c'était une continuité, mais ça apportait en plus le côté convivial, le côté auto-organisation de l'équipe qui apparaissait pas avant dans les méthodes de conception. J'y suis rentré avec beaucoup de plaisir. Et le premier trouble est venu avec le décalage qui s'est ressenti avec des valeurs. En fait, bon, la certification, c'est quelque chose de pyramidal. Un principe donc qui ne paraissait pas en phase avec les valeurs de l'agilité. Donc voilà, il y en a pas mal qui se sont offusqués de ça à l'époque. Et donc c'était le premier trouble en fait. Voilà, c'est okay, le premier okay. trouble qui continue encore. Et après il y en a eu d'autres qui sont venus bien sûr. Donc comme tu dis, on a essayé de dire d'abord faut peut-être pas faire des choses comme ça. Et il y a du faux agile.
Ouais.
Donc j'ai fait des présentations que j'avais appelées 2015 par là Scrum mon scrotum pour dire que il y avait du faux Scrum et puis on s'est intéressé aussi à des choses plus larges pour essayer d'élargir donc avec la systémique qui m'ont mené ensuite avec l'agilité radicale mais moi je pense que fondamentalement le problème au-delà de ce qu'on a essayé de faire, que le problème, il vient du fait que si on réfléchit aux origines de l'agilité, hein, l'agilité, c'est une façon de travailler, une façon de piloter le travail qui était en rupture avec le taylorisme et le fordisme. Hein, donc, et le manifeste agile se présente comme ça dès le début, c'est-à-dire qu'il se présente en position de décalage par rapport à une façon de travailler qui était dominante à l'époque. Hein. Si on regarde l'agilité, comment elle s'est introduite au niveau des équipes, c'était quand même très enthousiasmant les premiers retours d'expérience qu'on a eus. On a beaucoup entendu, on a réappris à se parler, à travailler ensemble et tout. Donc, il y a eu beaucoup d'expériences positives, ce qui a bloqué un peu et qui a fait en sorte que ça n'a pas pu se diffuser plus largement au niveau des organisations, des grandes en particulier, c'est que ce pilotage des organisations tayloristes, fordistes, et puis ensuite le néolibéralisme qui a essayé d'aller encore plus loin dans tout ça.
Oula, avec Claude, on a plein de grands mots là.
Il a continué à s'imposer en fait, et que l'agilité n'a pas réussi à le remplacer vraiment, et ceux qui ont fait des transitions agiles, en fait, plutôt que de substituer des principes agiles à d'autres, en fait, et des pratiques en particulier, ils ont gardé les anciennes et ils ont rajouté des choses, en fait, de l'agilité. Ouais.
D'où l'insistance que tu proposes sur de voir l'agilité comme une philosophie du travail et non comme des outils, principes, etc., pour insister justement sur cette dimension-là. Et je retrouve En fait, je sens quelque chose d'un petit peu différent entre, dans vos positionnements, Laurent et Claude, et c'est ça qui est un petit peu cool, alors qui est complémentaire, différent, dans le sens où l'agilité, ce que tu parlais de l'alignement vertical, Laurent, dans cette recherche, finalement, là, tu dépasses les propos un petit peu de Claude dans une philosophie du travail plus au niveau horizontal et flux de valeur. Je ressens un petit peu ça. Et peut-être qu'on va y revenir parce que ça rejoint aussi en préparation, on discutait beaucoup de la dimension d'équipe versus la dimension d'entreprise. Et c'est aussi des focus que vous avez qui sont assez différents tous les deux. Mais on va continuer peut-être un petit peu à tirer le fil avec une autre question autour des manifestes, puisqu'on l'a dit en intro, vous en avez reparlé, on a parlé de l'agilité radicale. J'ai entendu plein d'endroits des propositions de manifestes revues ou de tisser les liens avec le manifeste et la permaculture, ou bien de tisser des liens avec le manifeste et le jeu de qui. Bon, non, je crois pas que celui-là existe. Hein. Mais en tout cas, c'est un grand classique dans l'agilité. Voilà, revisiter, reproposer, relire le manifeste. Est-ce que vous pensez que c'est le manifeste certes qui a fondé l'agilité, mais est-ce que vous pensez que les manifestes vont sauver l'agilité?
Alors clairement non.
Hein. Ok.
Alors oui, le manifeste agile date de 2001. Il n'a pas changé depuis. Hein. Je pense qu'une des raisons du trouble qu'on observe, c'est que le manifeste ne disait pas clairement qu'il y avait un changement de paradigme, peut-être. Il disait, faut faire peut-être ça plus que ça. Mais voilà, ça poussait les gens à conserver ce qu'ils faisaient avant. Les processus et les outils, par exemple, ont été conservés. Voilà, donc on peut critiquer le manifeste, mais il est pas très connu en fait, et les gens qui démarrent dans l'agilité le connaissent pas trop, donc c'est plus pour réfléchir aux racines que c'est intéressant en fait d'avoir un manifeste. Okay. Alors le manifeste agile radical se voulait absolument pas comme un nouveau manifeste, mais voilà, c'est une extension, une revisite du manifeste à l'aune de la situation actuelle, donc pour prendre en compte les notions sociales et écologiques dans le manifeste. Enfin, rajouter ça en tout cas, essayer d'y penser. Mais maintenant, je parle pas du tout du manifeste radical. Je pense qu'il faut pas en parler effectivement.
Ok. Ouais. Donc ta proposition, c'était de travailler, d'approfondir ces fameuses racines à l'aune des limites planétaires et des contraintes environnementales. Ok.
Effectivement. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir à des principes en fait. Voilà, avoir des principes plutôt. Le manifeste avait été compris comme étant des valeurs relatives. Alors en fait, c'était pas des valeurs qui étaient dans le manifeste, c'était plutôt un mélange de principes et de pratiques. Et je pense que ça se joue pas sur les valeurs, puisque les valeurs, c'est vite récupéré. Il faudrait rentrer dans les explications de ce qu'est une valeur pour se mettre d'accord, et ça, voilà. Et en plus, les philosophes sont pas d'accord là-dessus. Donc c'est plus sur les principes et les fondamentaux qu'il faut jouer pour revenir
d'affiner,
à ce qu'est l'agilité dès le départ, et sa place dans un courant qui est basé sur l'autonomie des équipes par rapport au courant qui vient du fordisme et du taylorisme, qui est basé sur la différence entre ceux qui décident et ceux qui agissent. Donc,
Et toi, Laurent, ta perspective sur cette question des manifestes, est-ce que les manifestes vont sauver l'agilité?
Non. Par contre, alors, j'ai plusieurs niveaux de réponse. Par contre, ça peut être une force parce qu'on a appris à créer des manifestes, à s'y référer pour revenir justement régulièrement aux fondamentaux, pour pas se perdre. Parce que quand on met en place des pratiques, on peut vite se perdre. Donc ça, c'est finalement une compétence qu'on a acquise dans l'agilité et peut-être qu'on pourrait s'en servir pour l'entreprise, mais sans forcément faire de manifeste agile, enfin de l'entreprise agile. Au-delà de ça, je pense que trop de manifestes, une manifeste, il y en a eu beaucoup trop à tous les niveaux dans l'agilité, les produits, etc. Et finalement, c'est un parmi tant d'autres et on regarde même plus. J'ai même envie de dire que, en fait, aujourd'hui, en réfléchissant à l'entreprise agile, le manifeste agile, qui est quand même issu du développement logiciel, est trop restrictif. Et donc, finalement, nous limite dans notre réflexion.
Okay.
Par contre, ce qu'il faudra qu'on propose doit être cohérent avec tout ce qu'il y a derrière ce manifeste. Si on regarde l'évolution des entreprises depuis 50 ou 70 ans, en fait, on se rend compte que l'agilité est plus une évolution qu'une rupture à tous les niveaux, on va dire, sociologiques, voilà, organisationnels, etc. L'autonomisation des équipes, ce genre de choses, en fait, l'agilité l'a renforcée et a proposé des solutions, des implémentations, des archétypes, mais en fait, c'était déjà présent d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, ça suit plutôt l'évolution sociétale et puis des entreprises au sens plus large. Okay. Les entreprises s'adaptent et répondent à leur environnement, l'environnement change, et donc voilà, c'est une évolution normale. Enfin, c'est une évolution, hein. Moi, c'est ce que j'ai compris ces dernières années en lisant des théories anciennes et nouvelles, on va dire.
Ouais.
Et je le vois plus comme ça, et donc le manifeste, ça se pose en rupture, et je pense que là aussi, on le voit trop comme ça, ça va nous freiner.
Ok. Donc tu proposes de le voir plutôt en évolution et en même temps peut-être dans une rupture dans le temps long comme nous le partage Claude en comparant par rapport au fordisme ou au taylorisme et donc il y a peut-être une rupture là-dedans mais qui n'est pas marquée par le manifeste en tant que tel quoi. Qui
est non. Exactement. Effectivement, si on regarde avant après, on se dit il y a une rupture, mais en regardant plus précisément, il y a une évolution. Okay, ouais. Alors là où je rejoins totalement évidemment Claude, c'est que c'est encore présent. Ce sont des modèles qui ont été dominants et qui le restent. En partie.
Ouais, ouais.
Et là où je rejoins ce que disait Claude tout à l'heure, en fait, c'est que nos transformations, alors c'est pas spécifique à l'agilité, c'est que ça vient se rajouter. En fait, ces différents modèles mentaux viennent cohabiter au fur et à mesure. Et c'est pas un qui remplace l'autre, ça s'accumule. Et en fait, c'est assez particulier parce que finalement, au-delà de l'agilité, on voit l'entreprise comme un système complexe. Et en fait, les systèmes complexes, une des caractéristiques, c'est d'accepter justement qu'il y ait des modèles différents qui cohabitent.
Ouais, ok. Il n'y a pas de cohérence.
Et donc la question que je me pose philosophiquement, c'est est-ce que l'agilité doit proposer un modèle idéal, débarrassé de toute son histoire, enfin de l'histoire de l'entreprise, ou est-ce que justement c'est faire en sorte que tout ça cohabite bien? Avec une remise à jour de la, comme tu dis, Claude, la philosophie du travail, mais en ayant quelques fondamentaux qui restent. Donc, c'est une question que je me pose encore. J'ai pas forcément.
Eh ben, en tout cas, merci pour le parallèle parce que on l'avait pas vu dans notre préparation jusque-là, mais j'ai envie de tirer le fil de cette question de la cohérence et de l'incohérence. Et surtout, là, après là, on a fait un petit cours d'histoire et de généalogie selon les perspectives de Laurent et de Claude sur l'agilité. Maintenant, on va aller dans le cœur du sujet, quoi. L'avenir. Et donc, OK, il s'est passé des choses, rupture, évolution. Bon, chacun se fera sa réflexion et trouvera position là-dedans. Mais maintenant, on vit dans un monde dans lequel les limites planétaires ne sont plus ignorables. Et donc, par rapport à l'entreprise et à l'agilité, ce nouveau contexte qu'on pourrait appeler de façon très rapide l'anthropocène, ce nouveau contexte fait quelque chose et va faire quelque chose à l'agilité, d'où la conférence d'Alice, d'où ta keynote, je pense, Claude, qui s'inscrit dans cette continuité-là. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à qu'est-ce que va faire ce contexte environnemental sur, alors pas sur l'entreprise, mais plutôt sur l'agilité, sur les pratiques agiles, sur le manifeste agile, sur vous en tant que praticien ou ex-praticien de l'agilité. Et par exemple, en préparant cet épisode, on s'est beaucoup référé à la question de la robustesse versus la performance. J'ai plus le titre du bouquin, Claude, de Olivier Hamant.
Antidote au culte de la performance.
Yes, merci. Donc, on a beaucoup parlé de ce petit livre et du travail d'Olivier Hamant, très inspirant. Et donc, on peut se demander aujourd'hui, et l'agilité face à la question de la robustesse et non plus de la performance, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça change? Est-ce que ça perturbe? Qu'est-ce qu'on veut dire d'ailleurs par robustesse, résilience? Est-ce que c'est pareil que résilience, etc.? Je sais pas par qui commencer sur ça. Peut-être Claude, t'avais découvert ce livre et c'est ça qui t'a donné envie d'aller vers l'agilité de la décroissance.
Ah non, ça s'est pas passé comme ça.
Ah,
en fait.
Bah dis-nous.
C'est plutôt quand j'ai présenté l'agilité de la décroissance à la keynote que un des auditeurs après m'a offert le livre d'Olivier Hamant
que j'ai découvert
à l'occasion en fait.
Donc, okay.
C'est tout à fait récent, mais j'ai trouvé qu'il allait bien, qu'il entrait en résonance avec ce qu'on pouvait dire. Ça m'a fait juste changer, mettre en avant la robustesse de l'équipe par rapport à la coopération.
Okay.
Voilà, faire remonter dans les principes fondamentaux cette notion-là, en fait. Donc oui, la robustesse, elle est connue dans le développement logiciel depuis des années. La robustesse, c'était un critère de qualité des logiciels embarqués, notamment, qui était lié au facteur de fiabilité, autant que je me souvienne, et qui se définissait comme l'aptitude du logiciel à répondre à des changements.
Okay.
Donc là, c'est la robustesse de ce qu'on développe, en fait, la robustesse du produit qui est fait, qui est évidemment importante, et c'est quelque chose vers lequel il faut aller, la robustesse des produits qui sont faits dans le cadre maintenant de ce qu'on évoquait, les problèmes climatiques, biodiversité, etc. Donc,
oui, l'anthropocène en général, ouais. Est-ce que tu fais une différence entre robustesse et résilience, comme ces deux mots qu'on a utilisés jusqu'à présent, ou pas dans ta perspective?
Moi, je suis pas spécialiste du domaine de la résilience qui vient de la psychologie. Moi, j'ai juste suivi le discours d'Olivier Hamon qui préfère ce mot-là, robustesse à résilience, qui a des échos psychologiques, en fait, et qui a plusieurs définitions. Et donc, voilà, j'ai défini la robustesse comme la capacité à se maintenir stable dans le court terme et viable dans le long terme, en fait.
Ok. Et dans cette différence-là entre performance et robustesse, qu'est-ce que tu vois que ça changerait, face de ta perspective, est-ce que ça changerait des pratiques ou des façons de s'emparer de l'agilité ou des façons de suivre des KPI aussi, puisque on a beaucoup parlé de vélocité à une époque avec un axe performance et qui a été très critiqué dans le monde agile. De ta perspective, ça change quoi, ce focus robustesse versus le focus performance?
Alors, ça change. Donc, la performance, elle est d'ailleurs plutôt vue dans le cadre du management comme de la performance individuelle. Enfin, c'est ce qui a été rajouté dans les années 90, par exemple, qui voilà le côté performance individuelle avec les mesures, la récompense au mérite, le fait de se spécialiser dans des domaines. On a vraiment une opposition, hein, si l'agilité est basée sur la notion d'auto-organisation des équipes, hein, donc l'auto-organisation, c'est un certain nombre de pratiques pour décider collectivement, en fait, hein, donc une décision collective, et aussi comment l'équipe va apprendre donc à s'améliorer par elle-même. Pour aller un peu plus loin, l'idée de la robustesse de l'équipe qui s'oppose à la performance individuelle. Donc, on met bien l'accent sur le collectif. Donc, et pour revenir à là, on peut difficilement être agile et puis continuer à avoir de la performance individuelle. Donc là, on est vraiment sur des fondamentaux. Okay. La robustesse de l'équipe permet de faire de la coopération, la pluridisciplinarité, l'apprentissage par l'entraide, qui sont donc des pratiques de l'agilité, en fait.
Ok. Donc, ça serait vraiment un shift, si, en fait, finalement, moi, à t'écouter, j'entends que ça a toujours été là, je focus sur l'équipe et sur le collectif et sur l'auto-organisation, et que cette robustesse, c'est juste pour venir contrecarrer une réappropriation ou un détournement du fameux faux agile dont on parlait finalement en introduction, qui a mis le focus sur la performance individuelle ou même d'équipe, et toi, tu remets l'accent sur cette idée de, attention, l'agilité, c'est bien pour l'auto-organisation et la robustesse de l'équipe dans tout ça, quoi.
Voilà, et c'est aussi, bon, pour quelque chose qu'on évoquait déjà avant, qui est la stabilité. Donc, c'est-à-dire pour dire, vous avez une équipe, c'est un groupe, c'est un système qui travaille ensemble, et donc il y a des relations qui sont importantes, donc on a besoin d'une certaine stabilité. Donc, la robustesse permet de mettre l'accent sur cette notion-là.
Ok. Et en préparant ce podcast, Laurent, on discutait, alors robustesse, c'était pas un mot que tu utilisais, en tout cas je crois pas, mais sur la résilience, tu avais un avis sur cette question-là, et est-ce que tu peux nous partager?
Ouais. Alors robustesse, je l'utilisais avant dans le génie maritime, ça voulait dire, et puis dans le génie logiciel aussi, comme Claude l'a précisé, ça veut dire des choses, mais je l'avais pas utilisé, on utilise plutôt la notion de résilience quand on parle au niveau de l'entreprise. Effectivement, c'est deux choses différentes. Enfin, la résilience, comme l'a dit Claude, ça vient d'ailleurs, mais maintenant, on l'utilise dans le contexte des entreprises et ça veut dire un petit peu autre chose. J'ai noté deux définitions et qui, finalement, nous mettent un petit peu d'ambiguïté. La première se retrouve dans la notion de robustesse, c'est-à-dire s'adapter pour survivre, quelque part. Mm-hmm. La définition, j'aime bien, stable à court terme et viable à long terme. Je pense que c'est une très bonne définition et à laquelle j'adhère. Mais après, il y a aussi la résilience qui est se relever d'un coup, d'une situation, d'un choc ou autre. Et donc, cette deuxième forme de résilience, en fait, pour moi, l'agilité ne l'adresse pas, n'est pas fait pour. Et derrière le terme de robustesse, là où pour moi, il y a un petit peu d'ambiguïté, c'est que dans ce que j'ai appris, dans ce qu'on a fait, en fait, pour être robuste, typiquement, faut être redondant. Une redondance des circuits de communication, dans les compétences clés, une redondance dans les éléments qu'on construit, qu'on fournit. Et en fait, cette notion de redondance, en fait, c'est du surplus qui nous permet de justement d'encaisser les variations, d'encaisser les chocs, d'encaisser ce genre de choses. Et ça peut être aussi le slack organisationnel, ce genre de choses.
Juste peut-être le slack organisationnel, si tu peux dire deux mots sur ce que c'est.
C'est de pas être à 100% d'utilisation du système entreprise et du système individuel. Donc d'avoir de l'espace, mais c'est plus que ça. C'est aussi, par exemple, pour une entreprise, d'avoir de la trésorerie. Ça fait partie des choses.
Enfin, avoir un petit peu de mou, quoi.
C'est du mou, c'est exactement ça, du mou pour mettre de l'huile dans les rouages à tous les niveaux et pour qu'on puisse avoir une entreprise qui soit fluide, un travail qui soit fluide. Et donc, l'agilité ne promeut pas cette notion de redondance. On est plutôt dans l'optimisation. Et pour moi, la performance est un sujet de l'agilité. Par contre, là où c'est différent de la performance, comme l'a précisé très bien Claude, c'est qu'avant, la performance était à la fois au niveau global entreprise et à la fois au niveau individuel. Et c'est ça, c'est le niveau individuel qui était pas bon, ça apporte des biais. Par contre, la performance au niveau de l'équipe, la question peut se poser. Moi, je reste sur la notion de performance plus globale, parce que c'est ça, quelque part, la finalité. J'ai quand même en tête Jeff Sutherland, qui, dans son premier livre, que vous avez peut-être lu, qui dit « faire deux fois plus en deux fois moins de temps ». C'est quand même ça, au départ, qui vend Scrum. Alors, c'est du marketing, mais ça pose le ton. C'est pas s'auto-organiser pour mieux vivre notre travail.
Tout à fait.
Ça fait partie des fondations, malheureusement, quelque part, de l'agilité. Heureusement qu'on a dépassé ce cadre-là, pour se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur. Quand on dit stable à court terme et viable à long terme, faut pas oublier que le viable à long terme est possible qu'à partir du moment où on le finance. Et le financement, c'est le court terme, c'est aujourd'hui. Et pour qu'on puisse financer l'avenir, il faut qu'on soit performant aujourd'hui. Sinon, on va mourir et donc on ne pourra pas être pérenne. Et donc, cette performance, je dirais, elle est quelque part, elle est nécessaire quand même.
En tout cas, dans une perspective économique, puisque maintenant, je vais rajouter à la discussion que tu viens de dire là sur le viable à long terme, j'ai envie d'ajouter et de revenir, je vais insister, mais je vais revenir sur les questions environnementales, sur les questions de l'anthropocène, de ce que ça fait à l'entreprise. Et cette question finalement de viable à long terme, en tout cas, si on le regarde que sur la question économique, on le voit pas. Voire même, ça peut être contre-productif, c'est-à-dire que une entreprise très performante économiquement peut scier sur de la branche sur laquelle elle est assise et mourir à terme parce qu'elle a oublié de regarder d'autres indicateurs. C'est quoi vos réactions par rapport à ça? Enfin, vous partagez? C'est quoi la place de l'agilité par rapport à ces questions-là?
Claude?
Là, on est dans la définition du modèle de valeur, en fait, de l'agilité. L'agilité, au début, se présentait comme neutre, je pense, du point de vue des intentions. Avec l'idée qu'on peut appeler ça de la performance. On cherche à avoir un résultat qui apporte de la valeur à ses clients. Donc, client, c'était peut-être pas le bon terme, parce que ça a mis l'accent du côté de la valeur d'échange, donc de la valeur économique, et on a négligé probablement les vrais utilisateurs. L'agilité, je pense qu'il faut vraiment la centrer sur les utilisateurs et sur leurs besoins. Okay. Donc, revenir à ce qu'on appelle la valeur d'usage. Les boucles de feedback sont faites pour ça, pour inclure les utilisateurs et donc d'améliorer cette valeur d'usage. Donc, ce qui maintenant est à prendre en compte, c'est de nouveaux types de valeurs. Typiquement, là, on évoque couramment la valeur sociale et la valeur écologique. Il s'agit de les intégrer dans la réflexion.
Mais par de nouveaux indicateurs
La valeur. Alors, des indicateurs, peut-être pas tout de suite.
Okay.
Sur ces notions-là, c'est assez délicat. On a déjà vu que les indicateurs dans l'agilité, ça peut être récupéré dès qu'il y a un indicateur. Ouais. Donc, ça change un peu la façon de fonctionner du système. Donc, il faut d'abord réfléchir avant de mettre des indicateurs, peut-être, là-dessus.
Okay.
Voilà, c'est peut-être un peu tôt pour ces notions-là, en tout cas. En tout cas, les intégrer dans les réflexions qui sont menées dans l'agilité. Donc, ça me paraît assez facile. On a, au début du lancement d'une équipe qui va travailler sur quelque chose, sur un projet, sur des choses à faire, on a des étapes que certains appellent la vision, ou une étape qu'il faut réfléchir donc à ce qu'on veut faire. Et donc, intégrer ces notions-là dès les premières réflexions me paraît important. Et puis après, continuer à les inclure dans les différentes démarches stratégiques et tactiques me paraît donc de nature à les prendre en compte dans la façon de travailler en agilité.
J'ai l'impression, ça suppose quand même un certain pouvoir de décision de la part de l'équipe, et donc avec ta proposition Claude, il y a quand même une hypothèse sous-jacente que j'entends, c'est que l'équipe est en mode auto-organisation et a suffisamment de pouvoir politique pour potentiellement dire non à quelque chose qui venait de l'extérieur si elle est en capacité d'eux.
Bien sûr, oui. On revient aux fondamentaux, c'est de l'auto-organisation. L'auto-organisation, ça veut dire la capacité à décider de la façon de travailler. Donc, voilà, pour aller plus loin, c'est ce que voilà, je propose, c'est de renforcer la capacité de décision pour l'élargir aux services et aux produits qui sont faits, en fait.
Eh ben, merci Claude, parce que donc du coup, on voit bien que cette nécessité de prendre en compte le contexte changeant et en particulier des données environnementales ou sociétaux, comme tu nous le dis, l'agilité était agnostique là-dedans, il n'y avait pas cette question-là. Mais par contre, on mise, entre guillemets, en tout cas là, Claude, le pari que tu fais, c'est effectivement cette auto-organisation et que l'équipe s'en empare pour être capable de faire opposition et décider. Et on voit que ta réflexion est plutôt au niveau de l'équipe, Claude, et pas au niveau de l'entreprise. Et je veux bien avoir ton avis sur ces questions-là, Laurent, sur les questions valeurs, sur les questions comment l'agilité peut finalement intégrer en son sein cette question de limitation, de se confronter aux limites.
Donc là, on tombe dans le dur parce que c'est vraiment complexe. Donc je tiens à préciser d'abord que moi, à titre personnel, je suis adhérent à tout ça. Donc ma réflexion, elle n'est pas personnelle. C'est ma réflexion sur l'entreprise, mais c'est pas ma réflexion en tant qu'individu. Mm-hmm. Et ça change un petit peu le positionnement. Avant, l'agilité nous a appris à voir l'entreprise comme un système complexe. Je me réfère souvent à ça, un système complexe, et notamment de voir ça comme un système ouvert sur son écosystème. On devient du coup un acteur et pouvant avoir un impact sur cet écosystème. Okay. Et donc, à ce titre, il est tout à fait normal d'avoir ces réflexions. Mmh. Oui, bien sûr, on est dans un élément fini, et donc on ne peut pas avoir une croissance infinie, et on ne peut pas être des cannibales
de ressources, etc.
De ressources, etc. Donc là, là-dessus, moi, j'adhère. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qu'à la place de l'agilité là-dedans, je suis un peu plus sceptique, qu'on doit dépasser justement notre posture agnostique.
Okay.
Par contre, ce que je vois pour rebondir sur les propos de Claude, pour moi, effectivement, à partir du moment où on va se poser les questions de valeur, de mettre dans les valeurs ces notions sociologiques, écologiques, comme tu le disais tout à l'heure, faut avoir des leviers un peu plus décisionnels, un peu plus puissants. Et donc là, évidemment, tout de suite, on se pose la question de l'entreprise, ses valeurs, sa stratégie, et comment ça pourrait se décliner. Donc, comment nous, en tant que coach agile ou agilité, on pourrait mettre une pression positive pour que tous ces points-là rentrent à ces niveaux de décision et pour que ce soit pas juste du greenwashing ou ce genre de choses, mais vraiment qu'on les incarne. Là-dessus, j'ai pas vraiment la réponse. J'aurais des réponses très concrètes en disant, si on met en place des OKR, de limiter le nombre des OKR. L'OKR, c'est l'exécution de la stratégie. Donc, en disant, limiter le nombre d'OKR, concrètement, ça force à prendre des décisions et des arbitrages en laissant de côté certains points et en prenant d'autres. Et donc, en disant, si on retrouve pas ces notions-là dans les OKR qu'on va implémenter, qu'on va chercher à atteindre, je veux dire, c'est que quelque part, on n'incarne pas nos valeurs. Et donc, c'est un problème. Là, j'aimais bien la proposition d'Agile Radical. Et il me semble sur Karmapolis, tu pourras nous en dire peut-être un peu plus sur avoir des teintes d'OKR. Maintenant, je pense que c'est pas réaliste. Mais bon, on en discutera peut-être tout à l'heure. Ce que je vois, par contre, en revanche, c'est que la tendance au niveau des entreprises, c'est de décentraliser les prises de décisions stratégiques. Avant, on avait des stratégies d'entreprise corporate, et plus ça va, plus on descend jusqu'à la stratégie produit ou service. Et là, on est en train de déléguer les prises de décision au niveau le plus bas possible.
Okay.
Et donc ça renforce ce que disait Claude. Si on a vraiment cette tendance à la décentralisation, ça veut dire qu'on a plus de poids localement et que localement, on dit, vous avez le droit de prendre des décisions et on peut les faire en conscience par rapport à ces aspects-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, moi, je fais la distinction, peut-être pas à juste titre, entre l'auto-organisation et l'autogestion. C'est-à-dire l'auto-organisation, c'est la liberté de s'organiser tel qu'on veut dans un cadre. Et ce cadre, c'est le management qui nous le donne. Et l'autogestion, en fait, on fait péter le cadre et en fait, on se fixe.
On définit soi-même ce cadre.
Ce cadre, ses objectifs. Et finalement, la tendance est peut-être d'aller vers l'autogestion. Moi, ça me pose des questions parce qu'à un moment donné, si on est trop autonome, une équipe autonome ou une organisation dans l'entreprise, pourquoi on reste dans l'entreprise si on est autonome à ce point-là? Parce que finalement, l'entreprise, faut revenir aux fondamentaux, c'est quand même un ensemble d'individus qui contribuent à des objectifs communs. Si on commence à vraiment être trop autonome, on n'a plus cet objectif commun et quelle est notre place. Donc moi, ça me pose des questions au niveau de l'entreprise.
Ouais, de la définition même et de raison d'être même de
l'entreprise. Exactement, de raison d'être.
C'est ça que tu poses.
Mais j'ai pas la réponse.
Et juste peut-être revenir sur Karmapolis, parce que tu l'as évoqué là. Claude, tu peux nous en dire plus?
Karmapolis... Karmapolis, c'est un outil qu'on a proposé donc avec nos camarades de l'agilité radicale. En fait, on avait déjà un outil qui s'appelait Karma, qui était basé sur l'amélioration continue, donc en gros un outil de rétrospective de trimestre ou de saison pour s'améliorer. On a rajouté Polis, donc avec les OKR en fait. Hein, donc c'est planification par des,
c'est un
des objectifs, etc. Donc pour faire un bel acronyme. Et donc Avec l'idée donc que ces OKR, donc ces objectifs, pouvaient donc se décliner sur les valeurs sociales et écologiques. Enfin, en tout cas, définir ces notions-là avec l'idée, comme on a au niveau d'un trimestre, on va avoir peu d'OKR, de définir peut-être un OKR lié vraiment à la fonctionnalité, donc un OKR sur l'usage, et puis un sur le côté social et un sur le côté écologique. C'est une façon de pousser à réfléchir, donc à instiller des changements dans cette notion de valeur assez tôt.
Je trouve l'intention excellente. Et effectivement, c'est, comme le dit Claude, c'est une bonne manière de planter des graines, en tout cas, à ce niveau-là, de réflexion. Après, je disais que, enfin, moi qui anime régulièrement des ateliers avec des codires, en fait, on est déjà en train d'écarter des décisions importantes. Alors, je dis pas que c'est pas important, des décisions plus opérationnelles, quelque part, il y a des produits, etc., et que finalement, se limiter à 3 OKR, c'est juste impossible, en l'état actuel, d'avoir un OKR stratégique, un OKR sociétal, un OKR écologique, par exemple. Okay, je veux dire, dans un codir, je vois même pas la place de cette discussion-là, aujourd'hui. Okay, hein. Okay. Ça veut pas dire que faut pas essayer de faire évoluer les choses, et que c'est pas une bonne idée. Hein. Ouais. C'est la photo des entreprises d'aujourd'hui, telle que moi je la vois, c'est juste pas possible. Par contre, je trouve l'idée très très bonne.
Ok. Bon, en tout cas, dans tout ce qu'on vient de se dire, j'entends déjà d'essayer, et c'est un petit peu le but aussi de ce podcast, c'est d'inviter les praticiens et praticiennes de l'agilité à se muscler, finalement, à muscler leurs propres convictions, postures, pour soit faire monter et participer à cette réduction à 3 OKR avec la prise en compte environnementale, sociétale et économique au niveau d'entreprise ensemble, dans son ensemble, soit et où, tout ça, ça peut se combiner aussi, mais aussi au niveau de l'équipe et des équipes, et on rejoint toutes les propositions et tout le travail que tu as pu mener, Claude, au niveau des équipes pour que les personnes s'en emparent. Claude, tu veux rajouter peut-être un mot de conclusion avant d'aller doucement vers Sarah qui va nous partager sa lecture.
Alors, sur le côté entreprise versus équipe, donc on est d'accord que le côté systémique est important. Donc l'équipe, c'est un système à l'intérieur d'une entreprise, mais pas toujours, parce que avec la division du travail, on voit quand même pas mal, alors en dehors du numérique notamment, enfin dans tout ce qui est grosse organisation, on voit pas mal d'équipes dont les participants sont pas uniquement d'une entreprise en fait. On voit pas mal d'équipes dans lesquelles il y a des, ce qu'on peut appeler des sous-traitants ou des gens qui travaillent, mais qui sont d'une autre entreprise. Donc l'entité qui va agir en fait, elle est pas forcément liée à une seule entreprise en fait. C'est une des raisons pour lesquelles il me semble important d'insister sur la notion d'équipe. Et puis le deuxième point, évidemment, l'équipe est un système ouvert dans lequel il y a des parties prenantes qui sont autour, évidemment, les parties prenantes, et c'est ça qui fait remonter au niveau organisation, évidemment. Donc, c'est pas une équipe toute seule qui va effectivement faire des choses sans avoir de lien. L'équipe, elle est pas fermée, elle est ouverte, elle est partie prenante. Et ce qui est important, c'est l'alignement avec les parties prenantes qui doit être fait assez tôt dans le début du travail ou dans la vie de l'équipe, en tout cas, me paraît de nature à préciser des points et à éviter des décalages de valeurs qu'on peut voir plus tard dans le travail, en fait, sur un produit.
Et donc ménager un peu ces espaces-là pour ouvrir les discussions et un peu de s'autoriser en fait dans toutes les parties prenantes de cette équipe, qu'on soit externe ou qu'on soit interne à l'équipe, de ménager des espaces de conversation dans lesquels les sujets sociétaux et les sujets environnementaux ne sont pas absents de la discussion, faute d'outils, faute d'OKR, faute de direction stratégique, de s'en emparer dans ces espaces de conversation pour les partager au niveau de l'alignement en termes de valeurs, etc. En tout cas, c'est ça que j'entends, Claude, de ce que tu nous proposes là. Un dernier mot pour la fin, en 10 secondes, 30 secondes, je t'ai vu noter des choses, Laurent, t'as peut-être...
Ah ouais, alors ça va pas être 10 secondes, c'est quelques minutes, si vous me permettez. T'as entièrement raison, Claude, de préciser qu'aujourd'hui, les équipes, c'est plus que l'entreprise, il y a les sous-traitants, et d'ailleurs, si on pousse le modèle à fond, on a le modèle organisationnel qui s'appelle l'organisation virtuelle, et qui est un cas un petit peu extrême de ça, et donc effectivement, quand j'entends entreprise, moi, c'est au sens système ouvert, donc au sens un peu plus large. Maintenant, entreprise versus équipe. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait un mouvement de décentralisation vers les équipes qui renforce. Donc là, ça donne beaucoup plus de poids à tout ce qu'on peut faire au niveau local. Mais aussi, de réfléchir à l'entreprise agile, ça permet, si tu veux, de mettre en place... Parce qu'au niveau de l'entreprise, on a des leviers plus puissants. Voilà. C'est l'intérêt d'être dans une entreprise ou dans un groupe, hein, c'est qu'on a plus de force, plus de levier, et donc finalement, il faut aussi savoir s'en servir pour avoir un impact plus grand. C'est bien l'idée de penser à ce niveau-là aussi. Et donc, en posant la question, c'est quoi l'entreprise agile? Ça peut aussi nous amener vers des notions de gouvernance plus participative. C'est pas lié à l'agilité, ça existe déjà, mais d'avoir ça en cohérence. D'avoir aussi des notions de stratégie émergente, ça c'est intéressant, parce que si au niveau des équipes, au niveau du produit, on a une stratégie qui est vers l'écologie, vers la sociologie, et que c'est, et quelque part, ça a de la valeur, ça crée de la valeur, quel que soit ce qu'on met derrière le terme de valeur, et qu'on n'avait pas pensé ça au niveau décisionnaire, en fait, on peut avoir une stratégie émergente qui est construite là-dessus et qui s'impose à un moment donné au niveau de l'entreprise. Et donc, penser l'entreprise dans sa globalité peut amener, va renforcer ce que l'équipe propose et va amener l'équipe, les propositions de l'équipe vers l'entreprise. Et ça, finalement, c'est plutôt vertueux.
Ouais, dans une boucle de ouais. feedback. Et c'est pareil, tout à l'heure, on a parlé de la boucle de feedback utilisateur-produit très connue et très classique dans l'agilité. Finalement, l'anthropocène est un peu une boucle de feedback un peu plus grande, environnement, entreprise et aussi individu, bah, qui crée ces régulations et qui nous invite tous et toutes, praticiens et praticiennes de l'agilité, à s'emparer de ces sujet, à s'emparer de ces conversations et incarner, habiter des espaces de négociation, de dialogue pour réorienter et peut-être augmenter l'impact, tu disais tout à l'heure, et je finirai sur ça avant de passer la main à Sarah, mais de diminuer l'impact, en tout cas en particulier les externalités négatives, bien sûr, plutôt que de chercher à augmenter, peut-être que parfois on peut chercher à les diminuer.
Bah, sauf si l'impact est positif.
Mais sauf si l'impact est positif, mais là, Christian Fauré nous taperait sur les doigts. Non, bref, vous écouterez d'autres sujets, on en reparlera. Vous pouvez bien sûr réagir, rebondir après le partage de conclusions de Sarah, mais maintenant, c'est à toi, Sarah.
Alors, il y avait une question de départ qui était un peu l'agilité essentielle au service de nos sujets numériques essentiels. Je pense que c'est un peu là-dessus que je vais m'attarder et ne pas refaire toute l'histoire en conclusion. Yes. Ce que je retiens, moi, en tout cas, des échanges qu'il y a eu là, c'est le fait que l'agilité est à la fois à voir en toile de fond comme quelque chose qui suit les évolutions sociétales, et en fait, en ça, qui peut soutenir en fait ce moment où, face aux limites planétaires, on va la société prend de plus en plus acte et mise en action sur ces sujets, et que ça accompagne aussi quelque part, et que sur le temps long, ça crée de la rupture. Donc, ça me donne de l'espoir quelque part de voir que sous ces deux prismes de l'agilité, finalement, ça peut être un vrai support pour ce changement qu'on doit opérer fort aujourd'hui. J'ai bien aimé aussi un autre terme, cette vision à la fois issue de la robustesse, hein, de créer de la stabilité sur le court terme et de la viabilité sur le long terme. Et au fond, c'est exactement ça qu'on vit aujourd'hui et qu'on doit aussi de plus en plus démultiplier aujourd'hui, cette viabilité long terme, et en même temps arriver à, dans tout ce mouvement là, de créer de la stabilité pour pas que les entreprises soient non plus tellement dévariées qu'elles... Dévariées, c'est un mot du Sud, ça. Mais en tout cas, qu'elles perdent la tête. Ensuite, toutes les conversations finalement finales qui ramenaient sur les modèles de valeurs, enfin le fait que l'agilité au départ est plutôt agnostique, qu'elle impose pas un modèle de valeur spécifique, mais qu'aujourd'hui, face à ces nouveaux types de valeurs qui naissent autour de tout ce qui est social et écologique, bah, qu'il y a un vrai sens à les intégrer dans la réflexion. Et notamment, bah, ça c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'expérimenter chez Octo, hein, dès le début du lancement de l'équipe, dans la partie où on pose la vision, d'être en capacité à intégrer ces notions d'impact. Alors, excuse-nous Christian, mais en tout cas d'externalité sociale, environnementale, à inclure nécessairement effectivement dans cette réflexion de fond, by design, au démarrage, dès qu'on se lance en fait sur un projet. Et puis après, il y a tout le sujet effectivement de, c'est vrai que c'est souvent venu dans nos podcasts précédemment, quelque part de l'empowerment qui est nécessaire de l'individu face pour faire bouger effectivement les systèmes et parfois une impression que si plus haut ça ne bouge pas, ça ne bougera pas. Et en fait, là, il y a de nouveau dans vos messages le fait que dans ces logiques d'auto-organisation, de redonner des capacités de décision, de discussion, de faire de la conversation au sein des entreprises entre les différentes parties prenantes internes à l'entreprise et les externes, qui et que de recréer de la zone de discussion, d'arbitrage, de décision dans ces interstices, et ben ça redonne du pouvoir aux individus et donc ça redonne du pouvoir quelque part pour faire bouger le système sur ces sujets. Et puis j'ai bien aimé la Karmapolis et finalement le fait de se donner comme OKR dans une organisation aussi ou dans une équipe, ce notion d'usage, d'OKR social, d'OKR écolo, hein, qui va aussi, si on s'est posé des éléments de vision, ben, posons-nous jusqu'au bout, en fait, un dispositif qui permet d'insuffler ça dans les projets, dans les produits, et pour qui vont aussi progressivement instiller des changements de fond, je l'espère. Et puis, il y a eu tout ce final sur, effectivement, la notion d'équipe versus entreprise. Et j'aime bien aussi cette notion qui vient aussi, je reviens sur l'empowerment, etc. Je crois que c'est toi, Laurent, qui l'a évoqué, les questions de stratégie émergente qui s'imposent au niveau de l'entreprise et qui viennent aussi des individus et qui renforcent ce que l'entreprise propose. Voilà, en gros, ce que je retiens en lien avec nos sujets.
Eh ben, merci beaucoup, Sarah. Un petit mot de conclusion, ce coup-ci, c'est 10 secondes. Hein. Un petit mot de conclusion, Laurent, Claude ?
Eh ben, je commence, donc 10 secondes, ça va être juste. Mais l'agilité, donc la racine, c'est l'action. L'agilité, c'est une invitation à agir. Si les choses viennent d'en haut et descendent, c'est très bien, on les suit. Mais si elles ne viennent pas, on peut agir individuellement. C'est le message un peu de qu'on veut faire passer aujourd'hui.
Allez, chers agilistes, yes, merci Claude. Laurent.
Rien de beaucoup plus. Effectivement, passons à l'action. Moi, je crois quand même au fait que l'entreprise puisse bouger. On l'a vu, on a réussi à faire bouger les entreprises, à faire bouger les mentalités. Donc, je pense qu'il faut garder confiance dans le fait qu'on va avoir un impact et que si tout ça s'aligne, on sera plus fort pour essayer de trouver des réponses.
Yes. Et sur cette note d'espoir, merci beaucoup. Salut.
Salut.
Merci.
Ciao.
Voilà. Cet épisode est terminé.
Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr.
Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr.
À bientôt.